page 144, ligne 30, 30, 31, dans ce coin-là, là. Alors, Virginie, est-ce que tu voudrais lire?
Hare Krishna.
Oui.
Om.
Om Namo Bhagavate
Bhagavate
Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate
Vasudevaya.
Srila Prabhupada ki jai.
Jai.
Alors,
Nous
allons-y.
vous présenterons une classe de Srila Prabhupada sur le Srimad Bhagavatam 7.6.5, datée le 21 juin 1976 à Toronto. Pradyumna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Prabhupada et les dévots répondent. Tato Yateta Kushala Kshemaya Bhavam Ashrita Sariram Purushyam Yavam Navipadyeta Pushkalam. Tata, en conséquence, Yateta doit s'efforcer. Kushala, l'homme intelligent qui s'intéresse au but ultime de la vie. Chiemaya, pour l'avantage réel de l'existence ou pour être délivré du joug de la matière. Bhavam, Ashrita, qui est au sein de l'existence matérielle. Sariram, le corps. Porushyam, humain. Yavat, tant que, na, ne pas. Vipadyeta, flanche, Pushkalam, fort et vigoureux. C'est pourquoi, tant qu'il demeure au sein de l'existence matérielle, Bhavam Ashrita, l'homme parfaitement capable de distinguer le bien du mal doit s'efforcer d'atteindre le but ultime de l'existence, alors que son corps est encore suffisamment sain et vigoureux, sans attendre d'être opprimé par la sénilité. Teneur et portée. Comme l'enseigne Prahlad Maharaj au commencement de ce chapitre, Kumara Acharya Prajna, le mot Prajna désigne l'homme d'expérience, à même de distinguer le bien du mal. Celui-là ne doit pas gaspiller son énergie et sa précieuse vie humaine à peiner comme un vulgaire animal en vue d'améliorer sa situation matérielle. Il y a dans ce verset un terme qui peut s'interpréter de deux façons. Bhavam Ashrita ou Bayam Ashrita. Mais l'un ou l'autre sens, la conclusion reste la même. L'expression Bayam Ashrita indique que l'existence matérielle est toujours sous le signe de la peur, car on y rencontre le danger à chaque pas. Les matérialistes sont pleins d'angoisse et de crainte. Bayam. De même, si nous considérons l'expression Bhavam Ashrita, le mot bhavam se rapporte à des soucis et des problèmes inutiles. C'est par manque de conscience de Krishna qu'une personne se trouve dans cette condition, bhavam, perpétuellement opprimée par la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort. Il est alors certain qu'elle sera pleine d'angoisse. La société humaine doit être organisée en un système social constitué par quatre groupes, les brahmanas, les kshatriyas, les vaishnas, les vaisyas, et les sudras. Mais tout le monde peut pratiquer le service de dévotion. Si quelqu'un désire vivre sans ce service de dévotion, son statut de brahmana, de kshatriya, de vaishya ou de sudra perd à coup sûr tout sens. Il est écrit stanad brashta patanti adaha. Que l'on appartienne à un groupe inférieur ou supérieur, si l'on n'est pas conscient de Krishna, on ne peut que déchoir. C'est pourquoi l'homme saint d'esprit redoute toujours de choir de sa position. Il s'agit là en fait d'un principe sur lequel on doit se régler. Nous ne devons pas choir d'une position élevée. Nous pouvons atteindre le but suprême de la vie tant que nous possédons un corps suffisamment sain et vigoureux. Par suite, nous devrions vivre de façon toujours à nous maintenir en bonne santé et à conserver toutes les forces à nos facultés mentales et intellectuelles, afin de pouvoir distinguer le but de la vie d'une existence emplie de problèmes. L'homme réfléchi doit agir dans ce sens en apprenant à établir une distinction entre le bien et le mal et atteindre ainsi au but de l'existence.
Jai, merci beaucoup. Oups. Hare Krishna. Om gyanati naram desya giranjana samakaya chaksurun militam yena tasmai shri gurave namaha. Shri Prabhupada ki jai. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires?
En fait, c'est arriver à dépasser cette condition simplement de vie humaine matérialiste, c'est les premiers pas en fait quand on devient conscient de Krishna. C'est apprendre à se détacher de tout ça, tout ce qui est bhavam et bayam qu'on a lu précédemment. C'est la première étape, la première grande étape pour moi en fait, je pense.
Oui, mais ça se... Ouais, c'est une façon de voir. C'est le côté genre négatif, mais le côté positif, c'est d'être engagé au service de Krishna. Fait que les deux vont ensemble. Alors, si quelqu'un se concentre, faut que quelqu'un ait l'expérience du service de dévotion pour ensuite, par voie de conséquence, constater ou observer la mauvaise position que constitue l'existence matérielle elle-même, avec la naissance, la maladie, la vieillesse et la mort. Mais faut être engagé dans le service de dévotion pour ça. Alors, il y a un verset dans la Bhagavad Gita, ma belle Bhagavad Gita en créole. Alors, je vais regarder chapitre 12. Il y a un verset où Krishna dit que quelqu'un... En tout cas, le verset veut que quelqu'un qui prend refuge en Krishna... Bon, là, c'est en créole, là, c'est un petit peu compliqué, parce que c'est ça que j'ai sous la main. Alors, le verset veut que c'est dans le 12e chapitre de Bhagavad Gita. Alors, Krishna dit, « Les dévots prennent refuge en lui et ainsi deviennent libérés ou affranchis de la naissance et la mort très rapidement. » Alors, Prabhupada explique dans la teneur reportée que Krishna se charge personnellement de libérer ou de sauver un dévot de la naissance et la mort. Il s'en occupe personnellement. Alors, Prabhupada dit qu'on ne devrait pas essayer de se sauver soi-même, mais on devrait laisser Krishna nous sauver. Alors, quand on chante justement le Maha Mantra Hare Krishna, on implore la miséricorde de Krishna, la miséricorde de l'énergie interne de Krishna, Srimati Radharani. Et le reste, c'est dans les mains de Krishna. De nous donner sa grâce. Et sa grâce, c'est le service de dévotion, être engagé à son service. Ça, c'est sa grâce. Alors, ce qu'on lit aujourd'hui, c'est ce qu'on vient de lire, c'est seulement un verset et la teneur reportée dans le 7e chant, 6e chapitre, 5e verset. Alors, on parle de faire la distinction, d'avoir une c'est ça. Ici, c'est dit, c'est pourquoi tant qu'il demeure au sein de l'existence matérielle, Bhavam Ashritaha, l'homme parfaitement capable de distinguer le bien du mal doit s'efforcer d'atteindre le but ultime de l'existence alors que son corps est encore suffisamment sain et vigoureux, sans attendre d'être opprimé par la sénilité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être capable de distinguer le bien du mal? La question est posée. Alors, à la dernière phrase de la teneur portée, c'est dit ici, l'homme réfléchi doit agir dans ce sens en apprenant à établir une distinction entre le bien et le mal et atteindre ainsi au but de l'existence. Alors, le bien et le mal, qu'est-ce que le bien? Qu'est-ce que le mal?
On pourrait dire que le bien, c'est tout ce qui va dans le sens des recommandations de Krishna. Que le mal, c'est justement tout ce qui va à l'encontre de la conscience de Krishna.
Oui, c'est ça.
Faire un gros résumé, en fait, parce que sinon, après, on peut rentrer dans des détails. Mais tout ce qui est mal, c'est tout ce qui ne va pas dans le sens des principes régulateurs, qui ne va pas dans le sens de ce qui nous est donné comme instruction pour retrouver le chemin de notre véritable maison et ce que l'on est vraiment. Donc c'est tout ça en fait, et tout ce qui nuit à cette évolution, c'est le mal.
Ouais. Alors comme par exemple comme tu viens de dire là, les principes régulateurs, ça fait partie du bien. Alors c'est par exemple quelqu'un dit, moi, je vais distribuer des hot dogs aux gens qui ont faim. Ben, je m'excuse, là. Ça peut avoir l'air du bien d'un côté, mais c'est mal d'un autre côté. Parce que ça n'a pas besoin de faire un dessin, là. D'où viennent les hot dogs? Ce sont des animaux qui ont perdu la vie pour ça. Alors, ça, c'est mal en soi. Alors, ça, c'est le niveau matériel. Alors, comme Srila Bhaktisiddhanta Saraswati disait, quand un homme se noie, quelle est l'utilité d'essayer de sauver son manteau? Si tu sauves le manteau de la personne qui va se noyer, ça sert à quoi? C'est complètement inutile. Alors, tu vas... C'est travailler, comme on dit en québécois, c'est travailler dans le beurre. Et tu passes complètement à côté du vrai but. Alors, faire une distinction entre le bien et le mal, c'est justement distinguer qu'est-ce qui est conscient de Krishna, qu'est-ce qui ne l'est pas. Ça va loin, ce concept-là. Alors, une petite seconde. Ce concept-là est subtil. Je m'en viens avec un sujet là que j'ai travaillé dessus ce matin. Une promenade matinale de Srila Prabhupada dans laquelle sont présents deux dévots qui ont deux entendements différents de servir Prabhupada. Alors, les deux sont, comment on peut dire, sont attachés à leur concept. Mais ça, c'est pas dit dans la conversation. C'est comme ils disent en anglais, un morning walk avec Srila Prabhupada à Mayapur en 1976. Alors, et ce qui est ironique là-dedans, c'est qu'il y a un dévot qui reproche à l'autre dévot de donner gratuitement les Back to Godhead de Prabhupada. Et les deux sont pas dans le, comment on peut dire, sont pas au même endroit pour faire du service. Ils sont en Australie ou en Nouvelle-Zélande, un ou l'autre. Alors, c'est des dévots de ce coin-là. Alors, un des dévots est quelqu'un qui a écrit des livres. Et lui, c'était un genre d'une espèce de maître avec beaucoup de disciples qui, avant d'être un dévot de Krishna, un disciple de Prabhupada, alors il avait toute une, tout un groupe sous son influence. Alors il avait écrit des livres, et là l'autre dévot lui reproche de distribuer ses livres. Puis aussi, le dévot en question, il distribue les livres de Prabhupada. Et puis, l'autre dévot, disons, dévot numéro un qui distribue ses propres livres, puis l'autre, on va l'appeler numéro deux. Alors, lui, sa philosophie, c'est que, surtout à l'époque des années 70, là, les dévots étaient plus à cheval sur les principes qu'aujourd'hui, si on peut dire. Je m'explique. On veut pas critiquer les dévots d'aujourd'hui, là. Mais lui, dans son temps, le dévot numéro un avait du monde sous son influence. Et pour lui, c'était pas important de se raser la tête. Les gens pouvaient garder les cheveux longs. Et puis, lui, sa philosophie, c'est de seulement encourager les gens à chanter Hare Krishna. Et c'est à peu près tout ce qui... Et dans sa philosophie, il pense, c'est déjà beau de les amener à chanter Hare Krishna, puis s'ils veulent, plus tard, par la suite, ils s'abandonneront à Prabhupada. Ils suivront tout ce que Prabhupada veut qu'ils suivent. Et les autres dévots, et surtout dans les années 70, là, le mouvement, c'était genre, on peut-tu leur raser la tête le deuxième jour qu'ils soient rentrés, s'il vous plaît? Vous voyez la genre de mentalité. Ces gens s'étaient comme pressés de justement, parce qu'à l'époque, les hippies et compagnie, c'était populaire, les cheveux longs. Alors, c'était déjà un grand pas en avant de raser quelqu'un, de faire mettre le tilak et en faire un dévot, quoi. Et l'autre dévot, lui, était vraiment pas pressé là-dessus. C'était genre, laisse faire, va pas si vite que ça. Alors, le dévot numéro un, il dit que, ça c'est un dévot qui était un GBC, disons, un dévot qui était à Los Angeles. Il dit, il a acheté pour 5 000 $ de Bhagavad Gita pour distribuer chez lui. Et les Bhagavad Gita, il ne les donne pas, celles-là. Il les vend en bonne et due forme. Bhagavad Gita, ce sont les livres de Prabhupada. Alors, pour lui, il donne les Back to Godhead gratuitement, mais les livres, il les vend en bonne et due forme. Alors, dévot numéro 2 qui voit tout ça, et pour lui, c'est comme genre, c'est inacceptable, disons qu'ils le disent ouvertement ou pas ouvertement. Et là, ils sont avec Prabhupada, les deux, plus d'autres dévots, des gros noms du mouvement de la conscience de Krishna. Il y a Tamal Krishna, il y a Gopal Krishna, il y a Yasodhanandan. Ce sont des dévots très populaires dans le mouvement, très connus dans l'ISKCON. Et là, Prabhupada est... Il faut qu'il est comme dans le milieu de tout ça. Et Prabhupada va donner son opinion. Et Prabhupada dit, quel est le mal? Un dévot reproche à l'autre de les distribuer gratuitement, le Back to Godhead, qui coûte 12 sous à l'unité. Alors, il les donne, les distribue comme ça. Puis le dévot numéro 2 lui dit, mais vous, Prabhupada, vous avez dit de les vendre. Puis l'autre, il les donne gratuitement. Alors, Prabhupada dit, il les a achetés, il les a payés. Alors, où est le problème de les donner gratuitement? Il peut faire ça. Alors, il y a cette embrouille-là, à savoir, un pense l'instruction de Prabhupada, c'est X, puis l'autre pense, ben, c'est pas... Oui, il y a X, mais moi, je fais aussi l'étape suivante. Si je veux les donner, je les donne. Puis je peux bien faire ce que je veux avec parce que je les ai payés de toute façon. Alors, tu as ce genre d'embrouille-là et tu vois dans la conversation, je veux pas dire c'est chien et chat, mais c'est dévot à dévot qui, disons, il y a comme un genre de mésentente. Alors, et le dévot numéro 2, il dit, c'est que tout le monde pense qu'il comprend ce que Prabhupada veut. Alors, un comprend d'une façon, puis l'autre comprend d'une autre façon. Alors là, de ce point de vue-là, si quelqu'un, disons, veut et peut penser, ben moi je suis bien, puis l'autre il est mal, dans une certaine façon. Mais Prabhupada explique que tous les deux veulent prêcher aussi. Ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Alors, Prabhupada il dit que entre nous, il ne devrait pas avoir des différents. Différents, mettons, pour le nom. Il n'a pas dit on devrait tous être on devrait pas être différents. C'est pas ça qu'il a dit. Il ne devrait pas y avoir de différents. C'est-à-dire des dissensions pour une raison, pour une autre, etc., etc. Alors, Prabhupada dit qu'il va étudier la situation, puis là, il dit d'arrêter de parler sur le sujet, puis il va revenir plus tard avec ça, dans un autre tantôt, si vous voulez. Alors, c'est pour ça que je dis, le bien et le mal, même parmi des dévots, il faut qu'il y ait une certaine forme d'entendement et de coopération entre dévots pour l'amour de propager la conscience de Krishna. Alors ça, c'est pas facile, c'est pas toujours facile. Et excusez-moi. Et c'est davantage plus difficile lorsque des dévots ont des postes de responsabilité dans le mouvement de la conscience de Krishna, comme par exemple des GBC. Les autres sont au plus haut niveau, des présidents de temple ou des dévots qui sont dans le temple, mais qui pensent « Ah, moi, je suis plus ancien que l'autre, j'ai plus raison, moi, que l'autre peut avoir raison. » Puis là, ben, on s'en sort pas, là. C'est une spirale, là, où tout le monde est attaché à son gros grain de sel, pour différents concepts, etc. Alors, qu'est-ce que Prabhupada dit que sa façon de faire, c'est lui qui donne son verdict. Il dit que c'est sa façon de faire. Alors, quand Prabhupada donne son verdict et Prabhupada dit je donne mon verdict, je vais étudier la situation et vous devriez l'accepter. Il dit c'est ma façon de faire. Alors, Prabhupada a donné des instructions que après son départ, Prabhupada a dit la preuve de votre amour pour moi quand je serai parti. Le savez-vous, celle-là? Prabhupada le dit, la preuve de votre amour pour moi, quand j'aurai quitté, ce sera dans la mesure où vous allez coopérer les uns les autres. C'est la preuve de l'amour pour Prabhupada. Alors, il y a des choses qui peuvent nous plaire, ou moins nous plaire, mais pour l'amour de Prabhupada, faut savoir mettre un peu d'eau dans son vin et coopérer avec les dévots, avec l'assemblée des dévots, avec les dirigeants, qui, après tout, on doit leur accorder la sincérité qu'ils se doivent d'avoir pour occuper le poste qu'ils occupent. On peut pas juger un dévot a priori, comme si on mettait en doute sa sincérité de vouloir servir Krishna et Prabhupada ou la succession disciplique. On ne peut pas faire ça. On ne devrait pas faire ça. On devrait être disposé, disons, favorablement, puis c'est notre devoir de coopérer. Cependant, il faut utiliser son intelligence, encore une fois, à savoir si le dirigeant en question, c'est là qu'il faut utiliser, ça, comme on dit ici aussi, la distinction entre le bien et le mal. Alors, si le dirigeant en quelconque, tel ou tel dirigeant, pour une raison ou pour une autre, a un comportement fautif, c'est-à-dire qu'il manque de suivre les principes régulateurs et c'est connu et prouvé, à ce moment-là, il n'est plus en position d'être un chef de file. Et il y a des dévots, à qui c'est déjà arrivé. Et il y a des dévots qui ont déjà dénoncé de tels dévots. Et puis, à ce moment-là, les GBC prennent les décisions qui s'imposent. Puis là, tu entends parler, mettons, le GBC a voté telle résolution par rapport à tel comportement de tel dévot X, Y, Z. Et la situation est corrigée de cette façon-là. Alors, le mouvement de la conscience de Krishna, c'est grand, pas à peu près, là. Je m'excuse, c'est pas comme dans les débuts. Dans le sens que, puis en plus, à l'âge, dans l'âge de, actuel des, dans le monde, les communications vont très vite avec l'Internet. Alors, ça peut être bon, comme ça peut être moins bon. Alors, il y a un site, moi, que je fréquente tous les jours, c'est pas tous les deux jours, mais fréquemment, qui s'appelle dandavat.com. Et là, c'est diffusé. S'il y a eu des problèmes avec tel dévot, ben là, les GBC vont faire un papier puis vont dire, ben tel dévot, faut que, par exemple, des gourous, des dévots qui ont été nommés gourous et qui, pour une raison ou pour une autre, ont failli à la tâche. Et là, le GBC va prendre ça en main puis vont dire, bon, ben un tel, maintenant, ne peut plus initier de disciples. Et les disciples peuvent se rapporter à un autre gourou de leur choix et continuer leur service. Ben, c'est malheureux et c'est décevant, mais c'est la réalité que le mouvement pour la conscience de Krishna et la seule alternative pour de nombreux gens. Disons, si on parle de vaishnavisme, il n'y a pas juste ISKCON qui pratique le vaishnavisme. Il y en a ailleurs. Ça, c'est, quelqu'un peut regarder ailleurs s'il veut. Mais pratiquement parlant, le mouvement qui est le plus dynamique, le plus vivant, moi je dirais le plus intéressant à être membre, c'est ISKCON, parce que ISKCON prêche et ISKCON va où les autres ne vont pas. C'est malheureux à dire, tu veux dire, mais c'est comme ça. Et ISKCON, c'est le mouvement qui a pris à cœur, sous la direction de Srila Prabhupada, de propager la conscience de Krishna dans chaque ville et village. Et ça, quand on est un dévot, par exemple, qui a participé dans ISKCON, ce qu'on appelle le Sankirtan voyageant, c'est-à-dire, t'as un camion, t'as des dévots, et on va distribuer des livres dans chaque ville et village du pays en question, ben ça, tu le vis. C'est pratico-pratique. Que tu arrives dans, comme disent les Français, tu arrives dans un bled où il n'y a pas un chat dans la rue pratiquement. Et là, ta mission, c'est... Parce qu'en France, c'est comme ça que j'ai vécu ça, moi. J'avais un groupe, j'étais Sankirtan leader, et on faisait chaque ville et village en France, et on arrivait dans un village, et il n'y a pas un chat dans... En France, dans les villages, il y a toujours une place centrale. Et il y a toujours une église qui domine la place. Puis là, tu arrives sur la place centrale. Puis il n'y a pas un chat. Tout ce que tu vois, c'est... Ah, c'est typiquement français. Il y a la boucherie. Il y a la chevaline. Ils ont les deux, eux autres, en France. Et puis, tu as la boulangerie. Ça, il y en a partout. Tu as l'église. Et puis, il y a d'autres magasins. Mais ceux-là, tu les vois partout. Et puis, il y a le bistrot. Mais des fois, même le bistrot est difficile à trouver.
Il y a la mairie aussi.
Oui, la mairie. Oui, la fameuse mairie, là. Mais tu arrives dans un bled où... cherchent le monde. Ils sont derrière les portes fermées, là. T'sais. Alors, mais quand même, notre devoir à l'époque, c'est on va laisser un dévot ou une dévote qui va aller cogner à toutes les portes dans le village. Alors, par expérience, on sait que, bon, mais telle grosseur de village, on le sait déjà d'avance. Ça va prendre une journée. Ça va prendre une demi-journée. Ça va prendre 2 jours à faire. Mais en France, on avait convenu entre dévots de Sankirtan, parce que la France, c'est pas gros, hein, géographiquement parlant, là, c'est 1/5 du Québec. C'est pas une grosse place, là, c'est 1 200 km². Et c'est plus peuplé que le Québec, ça c'est sûr. Ça se compare pas même. Mais on s'est rendu compte quand on a débuté qu'on ne pouvait pas juste aller au plus gros puis ensuite on recommence. Parce que ça allait trop vite. Alors, c'est comme si on était au Québec puis on dit, ben, on fait les grosses villes. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme grosses villes au Québec? Ben, il y a Montréal, il y a Trois-Rivières, il y a Québec, il y a Chicoutimi, Shawinigan, Sherbrooke. Puis après, tu as fait le tour. Il y a Gaspé. Mais même Gaspé, au bout de la Gaspésie, c'est petit comme place. Le nom est célèbre. Tout le monde connaît Gaspé au Québec, mais c'est tout petit. C'est pas gros, cette place-là. Alors, t'as fait le tour. Alors, qu'est-ce que tu fais quand t'as fait le tour? Ben là, faut que tu fasses qu'est-ce que t'as pas fait. Puis ici, au Québec en particulier, ben au Canada en général, là, même, disons, au Canada surtout, et le Québec, parce que c'est pareil d'un bout à l'autre, là, c'est que les villes, les villages sont très espacés. Il y a beaucoup de kilomètres à faire avant d'arriver ailleurs. Mais en France, c'est pas le cas. En France, c'est des séparations de villages de 2-3 kilomètres, 10 kilomètres, peut-être, maximum, peut-être. C'est facile d'aller de village en village. Alors, en France, on faisait ça. Et, disons, c'était agréable à faire, ce travail de Sankirtan-là. Et ici, c'est un peu différent à cause des distances. Mais la mission est pareille. C'est qu'on doit propager le message de Chaitanya Mahaprabhu. Message de Sankirtan. Alors, et là, c'est au dévot de faire preuve de jugement, à savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas si bien que ça, ou qu'est-ce qui est carrément mal. Et puis, un dévot, c'est pas long, là. Ça passe vite, un dévot. Très, très vite. Une fois, j'étais dans un village en France, et je marche, et qu'est-ce que j'entends? Il y avait une bête en train d'être tuée. Ça devait être un bœuf ou une vache, je sais pas quoi. Mais là, t'entendais les cris, là. Et je pouvais pas voir directement ça venait d'où. Je pense que j'étais en train de traverser un petit pont en quelque part. Puis là, j'entends ça, là. Puis, immédiatement, comme dévot, tu le sais, là, ça, c'est de l'abattage animal, là. C'est pas bien. Pas bien du tout. Alors, ça va vite, penser en termes de dévot. Et c'est pour ça, un dévot, dans sa tête, ça doit aller très vite, distinguer justement le bien du mal, et puis s'en tenir à ce qui est bien, et ne pas dévier. Il faut que ça soit très vite comme réflexe. Alors, si le dévot est déterminé, il va être capable de garder le cap. Et s'il manque de détermination, pour une raison ou pour une autre, parce que l'énergie matérielle est très forte, ben ça peut être moins bien, si on peut dire. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? OK. Alors là, on va lire. Et c'est une longue classe de Prabhupada. On en a pour 1, 2, 3, 4, 5 pages. Alors, on va commencer pour faire un bout de chemin. Alors, Ananda, est-ce que tu voudrais lire, s'il te plaît? Page 145, ligne 36.
Parfait. Hare Krishna. Prabhupada. Tato yatate kushala kshemaya bhavam asrita sariram porushyam yavan na vipadyeta pushyakalam.
Pushkalam.
Srimad Bhagavatam 7.6.5. Ainsi devrait être l'activité humaine, celle qui consiste à shiriram poroshyam ivam na vipadyeta pushkalam. Tant que nous sommes robustes et forts et que nous pouvons très bien travailler, que la santé est tout à fait correcte, profitez-en. Ce n'est pas que le mouvement pour la conscience de Krishna est un mouvement pour les paresseux. Non. Il est destiné aux hommes forts, c'est-à-dire forts de corps, forts d'esprit, forts de détermination, forts en tout, forts de cerveau. Il leur est destiné, en vue de nous permettre d'atteindre le but suprême de la vie. Malheureusement, ils ne savent pas quel est le but suprême de la vie. Les gens modernes, pas juste modernes, depuis toujours. De nos jours, de toute évidence, les gens ne savent pas quel est le but de la vie. Quiconque se trouve en ce monde matériel est sous l'influence de Maya, ce qui signifie qu'il ignore quel est le but de la vie. Natevedu, ils ne savent pas. Svarta Gatim Ivishnu, Svarta Gatim. Tout le monde est censé s'occuper de son intérêt personnel. S'occuper de son intérêt personnel s'avère la première loi de la nature, disent-ils. Mais ils ne savent pas ce qu'est leur véritable intérêt personnel. Notre homme typique, au lieu de retourner à la maison, auprès de Dieu, ce qui constitue son véritable intérêt personnel, va devenir un chien dans sa prochaine vie. Est-ce vraiment représentatif de son intérêt personnel? Mais ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas comment fonctionnent les lois de la nature. Natevidu adanta gobir vishatam tamishram matir ne krishne parata svatova.
Ok, le mot tamishram. C'est la désignation d'un enfer décrit dans le cinquième chant du Srimad Bhagavatam. Dans le cinquième chant du Srimad Bhagavatam, différents types d'enfers sont décrits. Alors, il y en a un qui s'appelle Tamishram, il y a un autre qui s'appelle Adanta Gobir, on peut dire Adanta Tamishram. Alors, les gens ne savent pas où est-ce qu'ils s'en vont à la fin de leur vie humaine. Pour eux, C'est la théorie veut que c'est premièrement, est-ce qu'il y a une vie après la mort? Ça, c'est pas garanti qu'ils le savent. Et deux, s'il y en a une, ils veulent, mettons, aller au ciel, mais sans payer le prix pour. Ça, ils savent pas ça non plus. Et la même question, est-ce que le ciel existe? Les gens vont se poser la question, est-ce que le ciel existe? Et aussi, est-ce que l'enfer existe? Alors, il y en a qui sont plus... qui ont plus le sens du bravo. Alors, pour les autres, c'est genre, non, moi, je crois pas à ça, moi. Puis là, la réponse toute faite d'avance, pour l'enfer en particulier, ça va être genre, ben, jamais personne qui est venu pour montrer. Alors, ça n'existe pas. Alors, mais ils veulent aller au ciel, par exemple. Ça, ils vont pas dire, ben, il n'y a jamais personne qui est venu pour nous indiquer ça. Alors, le ciel, c'est correct, on peut croire. Et puis l'enfer, on l'oubliera parce que c'est trop dangereux comme tel. Alors, il y a beaucoup d'ignorance dans l'existence matérielle. Et comment est-ce que quelqu'un peut être épargné d'une pareille ignorance? La question est posée.
En devenant un dévot de Krishna?
Ça, c'est un peu trop loin dans la réponse.
La question, c'était comment on peut parvenir à...
Comment est-ce qu'on peut être épargné de l'ignorance?
En dirigeant nos actes vers la vertu, le plus possible.
Non, la première étape. Et même Krishna dit dans la Bhagavad Gita, tous les hommes naissent dans l'illusion, étant bercés par le désir et la haine, les dualités du désir et de la haine. Tout le monde naît dans l'illusion. Alors, comment sortir de ça?
Laisser tomber les dualités.
En se purifiant?
Non, première réponse. La réponse numéro un. Pas 2 ou 3 ou 10 ou 20 ou 30. La première réponse qui va faire toute la différence.
Ah, c'est pour ça qu'on
la trouve pas. Bhagavad Gita, chapitre 4, verset 34. Krishna dit, essaie d'apprendre la vérité en approchant un maître spirituel. Une âme réalisée.
Okay.
L'âme réalisée peut te donner le savoir parce qu'elle a vu la vérité. Ça, c'est la première étape. En d'autres mots, sans avoir contact avec un pur dévot, une âme réalisée, un maître spirituel, on n'est pas sorti de l'auberge. Et ça prend la grâce de Krishna pour avoir contact avec un pur dévot de Krishna. Par la grâce de Krishna, il y a un verset qui dit là, par la grâce de Krishna, on obtient la grâce du maître spirituel. Et par la grâce du maître spirituel, on obtient... Qu'est-ce qu'on obtient? Par la grâce du maître spirituel.
On obtient la grâce de Krishna?
On obtient Krishna. Par la grâce du maître spirituel, on obtient Krishna. Alors, par la grâce de Krishna, on obtient un maître spirituel. Et par la grâce du maître spirituel, on obtient Krishna. Alors, comment se fait-il que Krishna va donner l'opportunité à quelqu'un de rencontrer, de venir en contact avec un maître spirituel, entre parenthèses, authentique? Qu'est-ce qu'il va faire que Krishna va donner à un puis pas à un autre? Parce que Krishna est présent dans le cœur de chacun et il voit la sincérité de chacun. Il voit si quelqu'un est vraiment sincère d'avoir Krishna. Alors, tout le monde cherche dans le livre de Krishna, si vous lisez la préface, en tout cas la préface ou l'avant-propos de George Harrison. George Harrison écrit en dernier, il dit, tout le monde cherche Krishna. Et tout ce dont vous avez besoin, c'est d'aimer Krishna. All you need is love, and love Krishna, d'aimer Krishna. Alors, tout le monde cherche après Krishna, mais ils ne le savent pas. Alors, comment se fait-il que c'est Krishna qui le cherche? Ça, c'est une bonne question. Comment se fait-il? Alors, un, l'argument que je qualifierais de stupide, c'est de dire, ben, c'est notre religion qui veut ça comme ça. Est-ce que ça tient la route? La réponse stupide. Ben, c'est devant la religion, moi. Mais explique-la ta religion, là. Faut juste dire, c'est ma religion. Ça, c'est un argument stupide. Ça vaut rien comme réponse. Alors, on retourne à la question. Comment ça se fait que tout le monde cherche Krishna, mais ils ne le savent pas? C'est quoi l'explication?
Ben, on émane de Krishna, donc on était amnésique de notre véritable nature et de notre véritable sens, de notre but de l'existence, et qu'en même temps, donc on est chacun même dans, comme tu parles des religions et tout, chacun est dans son trip et dans son ce qu'il considère être le bien. Mais en fait, tout le monde est éparpillé et tout le monde cherche parce qu'il n'y a pas le bonheur absolu et le bonheur absolu, la félicité absolue, c'est avec Krishna et c'est ce que recherchent les êtres en fait, c'est d'atteindre un bonheur qui ne finit pas, une félicité. Et donc il y a qu'un retournant à Krishna qu'on pourra repenser peut-être vivre cela quoi. Je sais pas si je m'exprime correctement mais
non, tu t'exprimes très bien. Le sujet est couvert, mais c'est un petit peu long, mais juste pour donner une réponse très courte, très très courte et qui va couvrir tout ce que tu viens de dire là. La réponse est parce que Krishna est le réservoir de tous les plaisirs. Ça, c'est la réponse. Parce que Krishna est le réservoir de tous les plaisirs. C'est-à-dire, il n'y a pas plus grande source ou meilleure source de plaisir pour tous les êtres vivants que Krishna. Alors, c'est pourquoi, par exemple, Prabhupada dit, en ce qui concerne le livre de Krishna, alors, je pense que vous avez déjà vu la couverture du livre de Krishna en anglais, qu'on appelle le Krishna Book. Alors, tu as une photo de Radha et Krishna. Et Prabhupada dit, en voyant cette image, les gens vont être attirés. Ils vont se poser la question, mais qui est cette jeune fille? Qui est ce jeune garçon? Ça, c'est les gens, disons, ouvert d'esprit, qui vont penser comme ça. Alors, d'autres, ils vont voir le livre de Krishna, « Hey, moi, je touche pas à ça, hein. Et les Krishna, là, oublie ça, là, moi, c'est ma religion, là, tu sais. » Alors, ça, c'est dommage. Alors, être fermé d'esprit comme ça. Mais, des gens qui sont pieux, alors, ça, c'est... Les gens qui sont pieux vont être favorables à la conscience de Krishna, même s'ils connaissent pas la moindre théorie de la conscience de Krishna, parce qu'ils ont un background d'activité pieuse, pour une raison ou pour une autre. Quand ils vont voir les livres, quand ils vont entendre parler de Krishna, ils seront ouverts. Et ils vont finir par considérer, ben, Krishna est Dieu, la personne suprême. La conscience de Krishna commence de cette façon-là. C'est une des premières étapes. Pourquoi on devient conscient de Krishna? Si ce n'est pas du fait d'avoir accepté Krishna comme Dieu, la personne suprême. Sinon, ça fait pas de sens. Pourquoi je penserais à Joe Blue ordinaire, et même Joe Blue ordinaire le qualifier de Dieu alors qu'il n'a aucune qualification de Dieu comme tel? Krishna a, et Prabhupada explique ça dans le livre de Krishna, il a démontré par ses activités qu'il a toutes les perfections, il a toute la force, toute la connaissance, il a la réputation, la name and fame, toute la beauté,
la renoncement,
toute la richesse et tout le renoncement. Il a démontré ça dans ses divertissements. Alors, tu lis le livre de Krishna, et c'est exactement ça qui se passe. Alors, un des plaisirs de lire le livre de Krishna, c'est d'écouter les divertissements de Krishna. Et Dieu sait combien il y en a beaucoup. À savoir, lorsque Krishna anéantit les êtres démoniaques. Alors, les habitants de Vrindavan et de Mathura ou de Dwarka, les lieux saints où Krishna a fait ses divertissements, ne sont pas inquiets. Ils n'ont pas le moindre souci dans le sens que s'il y a un problème, Krishna va s'en occuper. C'était exactement ça qui s'est produit à l'époque où Krishna était là, Kamsa, l'oncle de Krishna en plus, envoyait des êtres démoniaques pour tuer Krishna. Et le résultat final, c'était le contraire. Envoie-en un, il ne va jamais revenir. Comme Krishna dit dans Bhagavad Gita, cherchez le lieu d'où l'on ne revient jamais. Alors, on les a envoyés à Vrindavan. Ils vont pas revenir, là. Alors, soit Krishna, soit Balaram, l'émanation plénière de Krishna, soit un ou l'autre s'en occupe. Alors, ça, Krishna dit dans Bhagavad Gita, je viens pour faire plaisir aux dévots et je viens pour annihiler les mécréants. Et c'est la mission de Krishna. Chapitre 4, verset 8, Bhagavad Gita. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Alors, on va continuer la lecture. Virginie, voulais-tu lire?
Donc, c'est le verset, hein, il faut lire.
Je peux le lire.
Vas-y.
Matsirna Krishne Paratak Svatova, Mito Bipadieta Griya Vratanam, Adanta Gobe Vishatam Tamishram, Punak Punas Charvita Charvananam, Srimad Bhagavatam, Chant 7, 5e chapitre, verset 30. Vas-y.
Cette conscience de Krishna, Matsirna Krishne, les gens sont très réticents à devenir conscients de Krishna. Comment ça? Matsirna Krishne Parata Svatova. Que ça devienne des enseignements d'autrui. Tout comme nous essayons de répandre la conscience de Krishna dans le monde entier, Parata Svato. Svato signifie personnellement, par un effort personnel. Par exemple, je lis la Bhagavad Gita ou le Srimad Bhagavatam et d'autres ouvrages védiques. Donc, Matsirna Krishne Parata Svatova Mitova Mitova signifie par conférence. De nos jours, c'est très populaire d'assister à des conférences. On constate néanmoins que les gens manquent d'être conscients de Krishna, soit par leurs efforts personnels, soit par le biais de conseils d'autrui, soit malgré de grandes conférences. Pourquoi? Griya Vratanam, parce que leur véritable but dans la vie ne vise qu'une chose. Je vais rester pour de bon dans cette maison. Griya Vratanam, Griya signifie la vie de ménage. Griya signifie ce corps. Griya signifie cet univers. Il y a tant de griya, grands et petits. Il est donc dit ici, Tato Yetetat, Kushalak, Shiemaya, Bhavam, Ashritat, Bhavam. Ce monde matériel est appelé Bhava. Et ceux qui sont à l'intérieur de ce monde matériel, ils sont appelés Bhava Rogi. Ce qui signifie malade, souffrant de la maladie dite bhava. Bhava signifie on devient bhava. Donc ici, dans ce monde matériel, c'est être bhava. J'ai déjà pris naissance dans une certaine famille. Je suis déjà devenu quelque chose bhava. Mais je vais devoir mourir. Pour finir? Non, bhava, encore une fois bhava. Buddha, Buddha, Praliyate, Bhagavad Gita, chapitre 8, verset 19, Buddhatu, donc Bhava, Bou, donc Buddha, Buddha, Praliyate. Telle est la nature matérielle. Ainsi, ceux qui sont Bhavam, Ashrita, ceux qui ont pris refuge dans ce monde matériel pour connaître à répétition la naissance et la mort et souffrir de la vieillesse et de la maladie, ils sont appelés Bhavam Ashrita. Donc pour les Bhavam Ashrita, ceux qui souffrent de cette maladie, il y a une alternative. Bhavoshyadi, Bhavoshyadi.
Le mot Bhavoshyadi, ça veut dire le remède pour la naissance et la mort. Alors, je vais le lire. Nivritta tasha upagiya manad bhavo sadak chotra mano biramat ka uttama sloka gunanuvadat virajita puman vina pashugnat. Alors, le mot pashugnat, ça veut dire animal. Alors, Srimad Bhagavatam, 10e chant, 1er chapitre, verset numéro 4. Continue, s'il te plaît.
Vina pashugna. Pashunat. Pashunat signifie le tueur d'animaux ou le tueur de lui-même. Pashunat, donc Pashu signifie vie, donc il tue. Cette civilisation est une civilisation qui tue. Parce que l'être humain a l'opportunité de s'affranchir de ce Bhavam Ashrita, ce monde matériel où il doit prendre naissance et mort, accepter naissance et mort encore et encore. C'est finalement l'occasion de s'en sortir. Mais ils ne sont pas éduqués comme il faut. On les oblige à accepter cette maladie chronique et à souffrir perpétuellement. Telle est la civilisation moderne. Mais la civilisation védique n'est pas comme ça. La civilisation védique consiste à sauver l'homme de cette maladie, le bhava-roga. Le bhava-roga, pour guérir de ce bhava-roga, lequel existe depuis la création. Chaitanya Mahaprabhu a prescrit la connaissance védique à titre de bhavoshadi. Nivritta Tashir Upajyamanad, Srimad Bhagavatam 10.1.4. Ce chant du Saint-Nom du Seigneur est appelé Nivritta Tashir Upajyamanad. Ce chant est le propre de quiconque est Nivritta Tashir, une personne qui a cessé toutes sortes de Trishna ou désirs matériels. C'est-à-dire Sarvopadi, Viniomuktam, Chaitanya,
Chaitanya Charitamrita.
C'est ça, Chaitanya Charitamrita, Madhya 19.170, ou qui s'avère entièrement Abhilashyata Sunyam, Brahmashamita 1.1.11.
Non, c'est pas Brahmashamita.
C'est
Bhakti Rasamrita Sindhu.
Pardon.
Le nectar de dévotion.
Ok, merci beaucoup pour la correction.
On va arrêter là 2 minutes. Alors, juste expliquer, Sarvopadi Vinir Muktam. Ça veut dire, on va expliquer le premier mot, là. Sarvopadi. Ça, c'est Sarva. Veut dire tout, et upadi, upadi veut dire désignation matérielle, veut dire ce à quoi on s'identifie avec le matériel, comme par exemple si je dis, ah, je suis un pompier, ou les animaux vont dire, je suis un chien, je suis un chat, on s'identifie avec le corps. Ça, c'est upadi. Alors, venir muktam, le mot mukti. Mukti, ça veut dire être libéré de ou affranchi de. Alors, venir muktam, c'est-à-dire une personne qui a, comme on dit ici, là, qu'est-ce que ça veut dire, nivrita tarcher? Une personne qui a cessé toutes sortes de trishna ou désirs matériels, c'est-à-dire sarva upadhi venir muktam, c'est-à-dire qui ne s'identifie pas avec des désignations matérielles, elle s'identifie comme une âme spirituelle. Alors, ça, c'est sarva upadhi venir muktam. Ensuite, et qui s'avère entièrement abhilashita shunyam. Shunyam, ça veut dire zéro. Rien. Et Abhila, c'est quelqu'un qui est complètement pur, qui n'a aucune imperfection matérielle, aucun désir matériel. Ça, c'est Anya Abhila Shita Shunya. Ça veut dire, quand il sait Krishna pour l'amour de servir Krishna, mais avec une totale pureté. Ça, c'est Anya, aucun désir matériel. Ça, c'est Anya Bilashita Shunyam. C'est ça. Alors, par exemple, si quelqu'un, comme c'est dit dans la Bhagavad Gita, il y a quatre genres de personnes qui approchent Krishna pour le servir. Mais elles ont toutes des motivations à servir Krishna.
Mm-hmm.
Alors, lorsqu'il n'y a plus ces motivations, à ce moment-là, c'est le pur service de dévotion. Servir Krishna, en fait, pur service de dévotion veut dire servir Krishna juste par amour pour lui, point final. Aucune autre motivation que cela. OK. Ananda, veux-tu continuer? Page 147, ligne 28.
C'est ça. Celui qui s'est affranchi de toutes sortes de désirs matériels, pour lui, ce chant du mantra Hare Krishna est possible et sera très réussi. Mais néanmoins, ceux qui ne sont pas affranchis de ces désirs matériels, il est recommandé par Parikshit Maharaj, Nivrita Tasair. En fait, ce chant du mantra Hare Krishna doit être effectué par une personne libérée. Mais toujours est-il que pour ceux qui ne sont pas libérés, Bhavam Ashrita, pour eux, c'est le bhavosadhi, le médicament à la maladie de l'existence matérielle. Nivrita tasair upagiyamanad bhavosadhi krochotra mano biramat. Srimad Bhagavatam, chapitre 10, Chandi, chapitre 1, verset 4. Le chant est très agréable à l'oreille et à l'esprit. Chotra signifie oreille et mano signifie esprit. Mais si l'on n'est pas libéré, c'est très agréable à l'oreille. Même si on n'est pas libéré, c'est très agréable à l'oreille et à l'esprit. Bhavo shadak, chotra mano biramat. Quelque chose de très agréable. Qu'est-ce que c'est? Utamashloka gunanu vadat. Utamashloka signifie Dieu, la personne suprême, à qui s'adressent des prières composées de versets de choix. Uttama, la poésie transcendantale faite de chants transcendantaux, y est adoré par vibrations sonores transcendantales. Ka Uttama Shloka Gunanu Vadat Puman Varijeta Vina Pashugnat, qui demeure fermé à cette vibration sonore transcendantale, Vina Pushagnat, tout simplement un tueur d'animaux. Par conséquent, manger de la viande est si dangereux pour un dévot, car celui qui tue des animaux ne sera jamais attiré. C'est pourquoi nous prescrivons de ne pas tuer d'animaux. Manger de la viande signifie plus que d'en manger, d'autres choses s'en suivront. Le sexe illicite suivra, et l'alcool suivra. Parce que nous ne pouvons pas digérer la viande avec de l'eau, vous devez boire. C'est un fait. C'est tellement lourd à digérer qu'à moins que... Donc, Madhya Manusa, ce sont quatre parents. Si vous mangez de la viande, alors vous devez boire, sinon vous ne pourrez pas digérer. Ainsi, pourra faire sa part de digestion, le vin est fort à ce point. Par conséquent, un ivrogne doit en prendre. En Inde, nous avons vu, partout, le vin et la viande vont de pair, puisqu'il faut arriver à digérer. Donc, Nivrita Tasair Upagiyamanad Bova Shadak Chotra Vina Pashugnat Shrimad Bhagavatam Chandis, chapitre 1, verset 4. Nous devons nous montrer très simple et pur. Après quoi, il est possible de savourer le chant transcendantal. Revenons à notre Bhavam Ashrita, celui qui a pris refuge du monde matériel. En fait, ce n'est pas notre place. C'est le mot même qui est utilisé, Ashrita. Malheureusement, nous avons pris refuge de ce monde matériel. Sinon, ce n'est pas notre place. Nous sommes des âmes spirituelles, Sanatana. Et il existe un Sanatana Dhamma, un lieu éternel. Mamei Vamsho Jiva Bhuta Jiva Loke Sanata Bhagavad Gita, chapitre 15, verset 7. Ce mot est utilisé, Sanatana, signifiant éternel. Les êtres vivants sont éternels. Ils ne sont pas censés vivre en ce monde. Ici, rien n'est éternel. Tout est temporaire. Alors pourquoi devrions-nous rester ici où rien n'est éternel? C'est pourquoi on appelle ces êtres concernés Bhavam Ashrita. Malheureusement, ils se sont réfugiés dans ce lieu où ils doivent mourir et reprendre naissance. D'où le nom de Bhavam Ashrita. Prahlad Maharaj recommande donc Tato Yateta Kushala. Si l'on s'intéresse à son élévation, Kushala, Kushala signifie ce qui est de bon augure. Tout le monde veut ce qui est de bon augure. Tato Yateta Kushala Kshemaya Bhavam Ashrita. Ce qui est de bon augure ultime ou le but ultime de la vie. Tant que le corps est fort, non pas Prahlad Maharaj a commencé Komara Acharet Prajna, l'éducation générale aussi. L'éducation est donnée aux enfants, pas aux vieillards, parce que leur corps en est à ses débuts. Ils sont réceptifs, ils peuvent recevoir une éducation. La recommandation de Prahlad Maharaj signifie que tant que nous sommes forts, que nous sommes en bonne santé, et non alors que nous sommes faibles ou que nous avons perdu toute notre énergie. Non. Quand on a toute son énergie, toute sa force, les jeunes gens, les enfants, ils devraient apprendre ce qu'est la conscience de Krishna. C'est recommandé pour eux. Pas pour les vieillards qui ont tout perdu. Non. Mais ils ont compris que le mantra Hare Krishna s'adresse aux vieillards qui vont mourir. Mais ici, il est recommandé au contraire que c'est pour les hommes vigoureux, les jeunes gens, les enfants, comme ça. Donc Prahlad Maharaj, il va de ses recommandations parce qu'il s'agit d'une mission très importante. Bhavam Ashrita, de sortir de ce bhava. Budva, Budva, Praliyate, Bhagavad Gita, chapitre 8, verset 19.
Oui, le Budva, Budva, Praliyate, ça veut dire destruction répétée. Alors, continuellement détruit, Budva, Budva, Praliyate. C'est le monde matériel. C'est fait comme ça, le monde matériel. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Non.
C'est OK. Alors, on va continuer. Ananda, continue, s'il te plaît.
Oui. Nous trouvons donc dans la Bhagavad Gita, on y trouve trois mots. Sanatana, éternel, y est employé. La première chose est ce jiva, ces êtres vivants. Ils sont décrits comme étant Sanatana. Mamei Vamsho Jiva Bhuta Jiva Loke Sanatana, Bhagavad Gita, chapitre 15, verset 7. Nous sommes des êtres vivants, Sanatana. Ce n'est pas que nous sommes devenus des Jiva Bhuta par le concours de Maya. Nous nous sommes mis sous l'influence de Maya. Nous sommes donc Jiva Bhuta. En réalité, nous sommes Sanatana. Sanatana signifie éternel. Nityo Sasvata. Le Jivatma est décrit en ces termes. Nityo Sasvato Yamnaya Anyate Anyamane Sharire. Bhagavad Gita, chapitre 2, verset 20.
Ouais, c'est cela. Chapitre 2, verset 20, ça veut dire ça. Lorsque le corps est détruit, l'âme survit au corps. L'âme n'est jamais détruite quand le corps est détruit. Ça, c'est Bhagavad Gita, chapitre 2, verset 20. Continuez.
C'est cela le Sanatana. Nous sommes donc si peu intelligents que je suis...
Que
je
si.
suis... Ah non, nous sommes donc si peu intelligents que si je suis éternel, Sanatana, je n'ai ni naissance ni mort. Pourquoi suis-je obligé de passer à travers le trouble de la naissance et de la mort? Pareille question est ce que l'on appelle Brahma Jijnyasa. Nous ne sommes pas éduqués en fonction de cela. Cela n'empêche pas que nous devrions être éduqués dans ces sujets-là. Nous devrions au moins tirer parti de cet entendement. Nous sommes Sanatana et un autre monde existe, mentionné dans la Bhagavad Gita, Paras Tasmat Tu Bhavo Nyo Vyakto Vyaktat Sanatana. Bhagavad Gita, chapitre 8, verset 20. Vyaktat Sanatana, ce monde matériel est manifeste. En arrière-plan se trouve l'énergie matérielle totale, le Mahat Tattva, lequel peut être non manifesté. Donc, Vyakto Vyaktat, au-delà de toute manifestation ou non manifestation du monde matériel, il y a une autre nature, une nature spirituelle, Sanatana, ce qu'on appelle Sanatana. Paras Tasmat Tu Bhavo Nyo Vyakto Vyaktat Sanatana, Bhagavad Gita, chapitre 8, verset 20, et le Jiva Bhuta Sanatana, et dans le 11e chapitre, Arjuna décrit Krishna comme étant Sanatana. Donc, trois Sanatana, les trois Sanatana. Donc, si nous sommes tous Sanatana, il existe un Sanatana Dhamma, et Krishna est Sanatana. Nous sommes aussi Sanatana. Ainsi, lorsque qui sont combinés ensemble, cela s'appelle Sanatana Dharma. Les gens ne savent pas ce qu'est le Sanatana Dharma. Ils pensent que si je m'habille d'une certaine façon et que je suis, et si je suis né dans une certaine communauté, alors je serai Sanatana Dharma. Non. Tout le monde peut être Sanatana Dharma. Mais ils ne savent pas quelle est la signification de Sanatana. Tous les êtres vivants, tout être vivant est Sanatana. Et Krishna, Dieu, est Sanatana. Il y a un lieu où nous pouvons nous retrouver. C'est le Sanatana Dhamma. Sanatana Dhamma, Sanatana Bhakti, Sanatana Dharma. Lorsque ces éléments trouvent application, c'est ce qu'on appelle le Sanatana Dharma. Alors, quel est ce Sanatana Dharma? Supposons que je retourne à ce Sanatana Dhamma et qu'il y a Dieu, Sanatana, et que je suis Sanatana. Alors, quelles sont nos activités Sanatana? Cela signifie-t-il que lorsque je vais au Sanatana Dhamma, je deviens Dieu? Non, vous ne devenez pas Dieu, parce que Dieu est unique. Il est le Seigneur suprême, le Maître, et nous sommes ses serviteurs. Chintaya Mahaprabhu dit « Jivera Svavarupa Aya Nitya Krishna Dasa » Chaitanya Charitamrita Madhya 20.108. Donc ici, chacun d'entre nous, nous prétendons être Krishna. Même si nous retournons au Sanatana Dhamma, alors nous, à moins d'être qualifiés, nous ne pouvons y aller, alors nous nous engageons éternellement dans le service du Seigneur. C'est cela le Sanatana Dharma.
Jai. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Non, Virginie me dit qu'elle a une coupure d'électricité chez eux. C'est pour ça qu'elle a quitté comme ça.
Okay.
Mais non, pas de questions sur ce qu'on a lu. Très intéressant.
Les gens, des questions, des commentaires?
Non, c'est bon, pas d'avoir.
Tout est beau. OK, d'abord. Alors, OK, alors ça compte. On a une belle grosse minute. Alors, ça, c'est le genre de classe qu'il faut lire et relire et relire et relire. Parce que il faut se rentrer bien dans le coco et dans le cœur surtout, que le monde matériel, ce n'est pas une place vraiment pour un dévot, disait Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Et le monde matériel n'est pas une place pour un gentleman, disait Srila Bhaktisiddhanta. Alors, dans le monde matériel, même si on veut être un parfait gentleman, ça non plus, c'est pas possible, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui se fiche bien que vous soyez un gentleman ou non. Et être un dévot, ça veut dire avoir des bonnes qualités, comme par exemple la gentillesse, la tolérance, la politesse, le respect des autres. Mais comment pouvez-vous appliquer ça avec tout le monde dans le monde matériel? Il y en a que ça marche pas du tout. Et c'est juste comme ça. Alors, Krishna a arrangé que ceux qui veulent vivre dans le monde matériel peuvent y vivre à leur risque et péril. Et ceux qui veulent revenir à lui pour l'amour de le servir, pour être avec lui, ben peuvent revenir à lui aussi. Tout le monde sont bienvenus d'aller retourner à Krishna. Et ça, c'est le but de la vie humaine, c'est exactement pour ça. D'en finir avec la répétition de la naissance et la mort et retourner à Krishna. C'est très simple. Alors, la pratique du Bhakti Yoga est simple, peut sembler compliquée à l'occasion, peut sembler amer comme du poison d'un fois, mais comme Krishna dit, le bonheur dans la vertu, justement, Krishna qui dit dans Bhagavad Gita, semble amer au début, mais devient doux comme du nectar à la fin. Alors, ça, c'est la conscience de Krishna. C'est question, commentaire? Alors, correct. Alors, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On va finir ça la prochaine fois. Alors, merci beaucoup.
Merci.
De votre présence. C'est toujours très apprécié. Et puis, on se revoit.